quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, sur les chemins, sur les chemins, à bicyclette, bicyclette, bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait chez les ailes.
Bonjour et bienvenue à tous sur votre émission Il est l'heure, Monseigneur, pour cette deuxième émission de la cinquième saison. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée, Myriam, de l'association Aidons-nous. Et autour de la table, on a des chroniqueurs habituels hein, au complet aujourd'hui. Donc bonjour Jean-Jacques.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Josiane.
Bonjour.
Bonjour Jacqueline.
Bonjour à vous.
Marc.
Bonjour.
Ricardo.
Oui, bonjour.
Et donc, bonjour Myriam.
Bonjour.
Alors, on va, comme à l'habitude, trouver un couple mystère cette année. Et je vous donne tout de suite les prénoms parce qu'ils sont pas connus sur ce nom-là. C'est Eric et Annie. Donc, la première chanson, bien, c'est une chanson de Téléphone en 1977. Et je vous explique l'indice tout de suite après, avant de discuter avec Myriam de Aidons-nous. À tout de suite.
Right.
Donc c'était le groupe Téléphone. Et alors l'indice, alors la chanson date de 1977, hein, ça, c'est un peu dur pour les oreilles, c'est pas la musique classique de Jacqueline, mais voilà, ça fait partie de votre génération également. L'indice, c'est Téléphone. Et la femme du couple mystère a joué dans le film Le téléphone sonne toujours deux fois. Donc c'est un film de 1986, si je dis pas de bêtises. 85, un film avec les inconnus. Et donc, une des actrices fait partie de notre couple mystère. Jacqueline n'a pas trouvé encore. Hein. On sème un petit peu le trouble et puis on va voir, on va éclaircir ça après. Alors, Myriam, bonjour.
Oui, bonjour.
Aujourd'hui, on te reçoit pour parler de l'association Aide-en-nous, une association, on va dire, de médiation artistique. Je te laisse nous présenter le projet.
Oui, alors en fait, association, c'est même pas encore une association. Pour l'instant, c'est un collectif, c'est vraiment une initiative émergente. On est au début du chemin. Et en fait, c'est un collectif qui est composé de 6 entrepreneuses culturelles, qui pour 2 d'entre elles sont coopérantes de la coopérative OSE. Et en fait, c'est durant un temps fort qui a été organisé par OSE que nous nous sommes rencontrés. Ce temps fort, ça s'appelait un hackathon culturel. Donc c'était un temps d'un week-end, donc c'était entre le 17 et le 19 mars dernier. Beaucoup d'entrepreneurs culturels se retrouvaient pour monter ensemble des projets.
Alors on va peut-être préciser pour les auditeurs le concept du hackathon. C'est en fait un défi qui est donné à des personnes sur un temps très court. Hein. Ça peut être 24 heures, voire une demi-journée. C'est voilà, faut concevoir un projet avec, on va dire, les grandes lignes, et les meilleurs sont récompensés. Donc vous avez été récompensés.
Donc on a été récompensés. Alors peut-être pour présenter d'abord le collectif, on est 6 à avoir travaillé sur le projet pendant le hackathon. Donc il y a par exemple Catel Daniel qui est illustratrice de livres de jeunesse, qui est dante familiale. En fait on a toutes des spécificités, mais notre point commun c'est les danses. En fait, certaines sont sensibilisées à les danses parce qu'elles ont des proches qui sont en situation des danses, et d'autres sont aidantes familiales elles-mêmes. Donc j'ai parlé de Catel, il y a aussi Marie-Laure Dupin qui est philosophe praticienne, il y a Sarah Elgarten qui fait de la médiation artistique par la peinture. Il y a Gwenoline Garciaz, qui est médiatrice du livre, animatrice d'ateliers d'écriture. Elle a été formée en bibliothérapie, pardon. Elle est aidante familiale également. Il y a Christelle Pasquier, donc qui, elle, est graphiste et designer textile. Elle est sensibilisée à l'aidance. Et il y a moi, donc Myriam de Montard. Donc, je suis sur la collecte audio, collecte de petites histoires, et je suis aussi sensibilisée à les danses. Voilà, pour toute l'équipe, je vous donne un peu je vous décris un peu ce que fait chacune, parce que ça donne une idée aussi de la diversité des interventions sur lesquelles nous
Excuse-moi,
travaillons.
Vous couvrez l'ensemble du département ou...
Alors c'est un projet en construction. Alors on aimerait couvrir l'ensemble du département. Pour l'instant, on est au niveau de la région. Chacune a un pied dans chaque département en fait. Il se trouve que le hasard a fait ça. Mais aujourd'hui, on travaille plus spécifiquement en Maine-et-Loire. Voilà.
Alors il se trouve que autour de la table, nous on s'est rencontrés dans le cadre de l'association France Alzheimer 49, et on a 2 expertes là en termes de médiation artistique aussi. Jacqueline, tu participes au Thé Alzheimer, et puis Josiane également, et Josiane, t'as aussi longtemps fait des haltes relais.
Oui, les haltes relais, mais aussi au niveau de l'association, parce que je partais de l'idée que faire rire et sourire, ça aide et les personnes désorientées elles-mêmes et les aidants. Donc c'était des groupes où il y avait le couple en principe, aidant aidé.
Et pour le coup, on peut rire, mais on ne se moque pas.
Hein. Ah non.
Et après Josiane, alors dans le micro si tu veux bien, je vais te faire parler un petit peu. Hein. Toi, la médiation artistique, tu l'utilisais à chaque séance quasiment, au moins par le chant. Je te connais de ce côté-là.
Oui, par le chant et puis aussi par le dessin, parce que par exemple, j'illustrais des fables de La Fontaine et je montrais les 2 protagonistes et il fallait qu'ils retrouvent la fable qu'on reparlait ensemble, quoi. Et puis des rébus, des choses comme ça pour les faire découvrir là-dessus, quoi. Et puis bon bah le mandala, mais ça c'est tellement facile ça.
Oh facile, pas pour tout le monde. Hein. Non. Oui mais dans le micro c'est toujours mieux.
C'est Josiane.
Non mais on m'accuse toujours de parler trop. Alors tu comprends.
Bon. Et donc Myriam, aujourd'hui, la typologie du public que vous souhaitez accompagner, j'ai compris qu'il était vaste.
Alors pour l'instant, il est assez vaste, en effet. Notre objectif, en fait, c'est de démarrer un cycle d'ateliers. On a envie de proposer des ateliers où les duos aidants-aidés, en fait, mènent chacun de leur côté un atelier. Et l'idée, c'est d'aller chercher un peu en chacun la créativité, de permettre l'expression, permettre un lieu de rencontre, un lieu d'échange, et un petit peu de se libérer aussi, de s'exprimer par la créativité. Donc notre leitmotiv, c'est la culture, c'est la santé. Donc c'est ça qui nous fait, qui est un peu la matrice du projet. Et on a envie donc de proposer un cycle d'ateliers qui permette à l'issue de ce cycle d'ateliers d'avoir une valorisation collective de l'ensemble des choses qui auront été produites en atelier, de manière à ce que les aidants, les aidés soient valorisés aussi dans leurs compétences culturelles, artistiques.
Alors toi qui es spécialisée dans, on va dire, le récit finalement, qu'est-ce que ça peut donner auprès de personnes ou handicapées ou malades? Quelle est la manière d'aller chercher le récit?
Alors en fait, ce qui est fort sur des ateliers de collecte de récits, par exemple, c'est de créer du dialogue déjà entre pairs. C'est de créer du dialogue entre pairs par du partage, tout simplement de la parole. Et après, quand il y a des témoignages qui sont faits sur le rôle des dents, notamment, c'est vrai que ça permet de se remobiliser, de se revaloriser en fait par rapport à ce qu'on mène tous les jours, et de faire entendre aussi sa voix. C'est ça aussi qui est très fort avec le récit de vie, se remobiliser sur qui on est, ce qu'on fait, et faire entendre sa voix.
Ricardo.
Oui, sur le récit, ça me fait penser. Je sais pas si vous, nous, on a la halte Azamir Croix-Rouge. On avait monté un projet avec Globe Compteur. Je sais pas si ça vous parle du coup.
Eh ben justement, ouais, je suis en lien avec eux. Ouais.
Voilà. Et ça a été malheureusement freiné par le Covid et on n'a jamais relancé. Et ça se basait sur le récit de vie. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Oui.
Oui, il y a des connexions. En fait, moi, je me suis. Ils proposent des formations de collecte et je me suis formée avec eux l'année dernière, donc en plein dans le mille.
Et pour le coup, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des manières de faire différentes en fonction du public? Est-ce qu'il y a une médiation artistique privilégiée en fonction de l'âge ou de la culture? Est-ce que des enfants, par exemple, autistes ou des personnes malades d'Alzheimer vont avoir une approche différente?
Oui, bien sûr. Alors c'est là que on trouve ça très important d'être aussi accompagné par des professionnels sur ces ateliers, sur les contenus. Alors au départ, on est sur un public très large, mais ça va s'affiner, sachant qu'on propose là, donc au mois d'octobre, première semaine d'octobre, on va être accueilli en résidence au Poncé, puisque le prix qu'on a gagné au Hackathon, c'était d'avoir une résidence, et ça va justement nous permettre de peaufiner tout ça, parce que pour l'instant, on a les grandes idées, l'idée générale. Mais on aimerait affiner et on se donne le temps de ça en octobre avec sur cette semaine-là notamment des premiers ateliers découvertes.
Alors on va en parler tout de suite après la prochaine chanson indice pour notre couple mystère et on reprend ça tout de suite après. Donc le prochain titre, je vous donne pas l'auteur parce que finalement c'est le monsieur du couple mystère qu'il faut trouver. Donc la chanson s'appelle Amour limite zéro. À tout de suite.
Que ma vie s'en va. Eh bien, j'ai peur parfois. Et je me demande pourquoi. Tout ce temps qui part n'a pas pitié de moi. Je me suis perdu sans toi. Je me suis perdu. Que mon cœur s'en va un peu plus loin de toi. L'inquiétude me saisit. En une seconde, je vois ma vie
deviens gris. Et même Dieu est parti. Le souvenir m'a envahi. Et j'entends trop de bruit. Arrêtez vos cœurs. Il me rappelle mon bonheur. Moi je me suis perdu sans toi. Moi je me suis perdu sans toi.
Donc, autour de la table, nos chroniqueurs ont trouvé qui était le chanteur, et donc on trouvait également qui était le couple mystère. On va préciser les choses juste après. Alors, pour vous en dire juste un petit peu plus sur ce couple, le chanteur que vous venez d'entendre, Eric, a été jury d'un télécrochet, et c'est à cette occasion qu'il a rencontré sa future épouse. Voilà. Et on en parle juste après le prochain titre qui vous donnera de toute façon la bonne réponse. Voilà. Alors Myriam, donc oui. On a parlé de résidence d'artiste au Pont de C. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? D'abord, où c'est ? Quand est-ce que c'est ? Et qu'est-ce qu'on y fera ?
Alors, en fait, ça sera à Rive d'Art, qui est un espace qui accueille différents corps de métier, hein,
ouais.
Et qui et fait émerger aussi des collectifs autour de la créativité. Pas mal cet axe-là. Et donc pendant une semaine, on va être accueillis donc du lundi 2 jusqu'au vendredi pour finaliser notre projet, donc travailler les partenariats, la structuration juridique. On n'est pas encore une asso, on est un collectif, donc voilà, ça sera à l'issue de ça, on pourra dire qu'on sera une asso. Affiner les recherches financières, la communication et tout le travail des contenus d'atelier, en fait, en fonction des publics et l'approche en fonction des publics.
Et donc, vous attendez de rencontrer des publics, comment ça va se passer ?
Alors, on s'est dit, quitte à travailler sur le projet, ce qui serait super, c'est de commencer à être déjà les mains dans le cambouis, parce qu'il n'y a rien de tel que la pratique pour vraiment se rendre compte. Et puis, voilà, donc on a structuré un atelier découverte. Qui se tiendra le mardi, donc il y aura un atelier de 10h à midi et un autre qui aura lieu de 16h à 18h et on recherche encore des duos aidants aidés qui seraient intéressés pour participer à ces ateliers.
Dans un EHPAD où est-ce qu'aura lieu ?
Là ça sera à Rive d'Art, on a des locaux à Rive d'Art.
Alors Rive d'Art, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est à proximité du camping des Pont-de-Cé.
Voilà, en bord de Loire.
Et de la piscine des Pont-de-Cé. Alors pas celle qui sera à construire bientôt, mais la piscine estivale.
Oui, à côté de l'EHPAD.
Oui, dans le micro. Dans le micro, c'est bien, Jacqueline. Hein.
À côté de l'EHPAD, donc.
C'est ça. Donc, et pour le coup, vous serez toutes les quatre, toutes les six présentes.
Alors, on sera cinq présentes et en fonction, on va échanger en fonction de la sensibilité des gens présents, voir ce qu'ils ont envie de faire. Et moi, sur la collecte, je ferai des petites interviews à part pour avoir un temps d'échange.
Attention, parce que Ricardo est hyper sensible à côté. Hein.
non, mais je voulais demander comment ça allait se passer, le découpage du temps entre les différents animateurs. Du coup, vous recevez, vous en discutez et c'est au feeling que vous lancez les animations. Alors, ou il y a un découpage prévu?
Voilà, on a une trame et on est plutôt parti là sur partir de l'expression de chacun sur une base peinture et textile. Voilà, donc puisqu'il y a une artiste textile, il y a une peintre, donc ça va être ça le premier point d'accroche.
Je viens de croiser le regard de Marc, et Marc, j'ai oublié de te demander l'essentiel. La petite phrase du jour, j'espère qu'elle est en relation avec les arts, mais...
Elle est en relation avec le
projet. Dans le micro, Marc, dans le Marc.
Elle est en relation avec le projet.
Alors, allons-y.
Est-ce que la petite phrase, c'est « le but est dans le chemin ».
Voilà.
Voilà. Et pourquoi c'est une phrase qui a beaucoup guidé, qui guide encore, qui m'inspire beaucoup moi dans ma vie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est souvent dans ce monde dans lequel on vit, on est sur des objectifs, l'objectif, le but, l'objectif, et on passe pas assez de temps sur le chemin. Parce que évidemment, si on va vite et qu'on prend pas le bon chemin, on n'atteint pas l'objectif, on n'atteint pas le but. Et donc, il faut prendre le temps. Notamment de regarder, même que ce soit pour un achat, pour dire voilà comment bien vieillir, comment rester en forme, prendre le temps de regarder le potentiel de la situation, c'est-à-dire voilà tous les points forts et les points faibles que qui sont à ma disposition, les personnes qui peuvent m'aider en l'occurrence, et à partir de là faire le bon choix. Donc voilà, c'est une phrase qui m'inspire beaucoup et que j'essaie de partager au maximum, et je la partage aussi aujourd'hui avec les auditeurs. Vous pouvez vous en servir, voilà.
C'est pas une phrase de Ribéry.
Non, c'est pas une phrase de Ribéry. Il y a le poète Goethe qui a dit quelque chose d'assez proche, qui a dit le but c'est le chemin. Oui. Moi je dis le but est dans le chemin. C'est-à-dire c'est la manière. Voilà, cheminer. Alors il y a toute une dimension aussi spirituelle autour du chemin. Je suis le chemin. Voilà. Mais essayons de prendre le temps de mettre son énergie à réfléchir sur comment je vais y arriver et non pas être centré uniquement sur l'objectif et d'aller trop vite sur l'objectif. Voilà, prendre le temps, slow.
Alors le temps, c'est un retraité qui le dit, moi je dis, parce qu'on est un peu pris dans le quotidien avec.
Oui, mais justement, on peut gagner du temps.
Mais tout à fait.
En réfléchissant avant.
Ah, mais en l'occurrence, très souvent, quand j'ai trop de choses à faire, je m'arrête pour réfléchir à ce que je dois faire. Voilà. Donc c'est effectivement le temps nécessaire et utile.
Il faut choisir les bonnes priorités.
Oui, aussi. Oui, mais après il y a toujours une priorité qui en bouscule une autre. Donc Myriam, à la résidence, il y aura du public. Alors, au Pont-de-Cé, ça tombe bien parce qu'il y a un EHPAD, il y a une résidence autonomie, il y a un IME. Est-ce qu'il y a des rencontres qui sont déjà programmées avec ces structures ou pas?
Alors, ça va être, on espère, la suite. Mmh. En tout cas, ce que je peux signaler, c'est que la mairie des Pont-de-Cé organise une soirée le 6 où toutes ces personnes-là seront présentes au Théâtre des Dames. Donc, c'est autour des aidants. Donc, il y aura un spectacle de Anne-Marie Teinturier, qui est quelqu'un qui a fait un seul en scène. Je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Rage des dents.
Si maintenant les invités font notre promotion, c'est génial.
Ben voilà, je vous êtes partenaire.
En France, Alzheimer 49 est associé effectivement à cet événement et on espère qu'effectivement que ce sera le lieu pour échanger et peut-être prendre conscience pour certains aussi.
Et du coup, à l'issue de la soirée, donc il y aura un débat après la pièce et là-dessus, il y aura une présentation du projet et on espère que ça donnera envie.
Ben, je crois que de toute façon, il faut prendre le temps de la réflexion et comme tu dis, dans le chemin, faut savoir se poser et savoir finalement se rediriger quand ça va pas comme on veut, quoi. Donc l'aide, là vous l'avez expérimenté pour beaucoup d'entre vous, il faut prendre le temps de savoir où est-ce qu'on va et comment. Voilà.
Et surtout s'il y a des personnes qui n'aiment pas être bousculées, c'est les malades d'Alzheimer.
Ben oui, mais après j'ai envie de te dire, les personnes malades comme nous, personne n'aime être bousculé. Nous sommes tous avec nos limites et on atteint des seuils plus ou moins rapidement en fonction de notre état de fatigue, malade ou pas. Est-ce qu'on fait la petite pause musicale pour découvrir le couple mystère? Là, je fais plus de suspense. Ça va être le couple mystère qui chante. C'est de la pop, c'est du showbiz. Donc, on va écouter tout de suite. Je donne pas le nom du couple parce que ce serait trop facile. Mais la chanson, c'est Made in Normandie. À tout de suite.
Je suis américain et je vis en Pennsylvanie. En 1944, j'étais sergent dans l'infanterie. Jeannette et moi, on s'est mariés, c'était le mois de mai. M'a parachuté sur un village français. La guerre, Jeannette, je te l'ai raconté, mais dans mon cœur j'ai toujours gardé les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerisiers blancs. Made in Normandie, une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie. Et le bon cidre doux, made in Normandie. Les œufs made in Normandie, les bœufs made in Normandie. Un petit village plein d'amis. Et puis les filles au jour rouge qui donnent aux hommes de la part, qui donnent
cœur, j'ai toujours gardé.
Les vaches rousses blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs, mais du Normandie. Une mare avec des canards, les pommiers dans la prairie, et le bon cidre tout, mais du Normandie. Les semets du Normandie, les pommets du Normandie, un petit village plein d'amis. Et puis les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de la mare, qui donnent aux hommes de la.
Alors, donc c'était Made in Normandie par le couple Mystère. Vous pouvez me le citer, s'il vous plaît?
Stone et Chardin.
Ah oui, c'est bien ça. Bon, on a un peu dévié dans la chanson sur les coupes de cheveux de l'époque et celle de Ricardo. On parle pas de celle de Marc ni de la mienne, hein, c'est pas la peine. Bon, Stone et Chardin, les uns et les autres, c'est votre époque, ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On a compris qu'ils étaient très populaires, avec une discographie assez importante, mais on n'a pas su dire combien Eric Chardin avait fait d'albums exactement.
Non, j'ai pas le souvenir. Je sais qu'il en a fait plusieurs, mais non. Ce qui se vendait le plus, c'était les 45 tours.
Mais Chardin, c'était quand même un musicien.
Oui. Oui.
Enfin, c'était un musicien, compositeur et tout ça. Et je voyais même, il a même chanté, enfin avec un musicien de classe internationale, le guitariste de Roxy Music, c'était un groupe de rock.
Oui.
Roxy Music.
Ah oui,
Brian Ferry, ouais, le chanteur.
Ça, pour le coup, j'aimais beaucoup.
Glam rock. C'est-à-dire, c'était des mecs qui mesuraient déjà 1m80, puis qui prenaient en plus des talons qui faisaient 20 cm, donc ils montaient à 2 mètres, quoi. Ah ouais, ça fallait les voir.
Et on critique les drag queens d'aujourd'hui, et bah bravo. Bah,
ça s'appelait le glam rock. Hein, c'est-à-dire, le truc étincelant, il y avait des costumes qui brillaient.
Brian Ferry était plutôt beau gosse.
C'est un bon mec, hein. Ouais.
D'accord, bon, je sens qu'il y a de l'amour là. Ça.
Ah, bref.
On va éviter de raviver trop de souvenirs.
C'est devenu presque un crooner.
Alors, Myriam, est-ce qu'on a oublié de dire des choses concernant Aidons-nous sur l'événement à venir cette semaine? Est-ce qu'il y a un temps très fort dans la semaine où il ne faut pas rater l'événement?
Non, c'est les ateliers.
D'accord.
Les ateliers de découverte.
Ils sont à quelle heure, ces ateliers?
Donc, je rappelle, c'est le mardi 3, donc ça sera...
Demain?
Non.
Demain.
Demain. Mardi 3, demain, de 10h à midi et de 16h à 18h. Donc, pour toute personne qui souhaite qu'on soit... Alors, c'est vrai qu'au départ, on était parti sur des duos et là, on se dit, c'est important que, quel que soit... on vient pas forcément à deux. On peut venir si on est aidant, si on est aidé, de manière différenciée.
Il faut rien s'interdire.
Et le lieu, c'est au Rive d'Art, au Pont de Cé.
Donc, il ne faut rien s'interdire. Si on a envie d'essayer, on vient à seul ou à deux.
C'est ça.
Et est-ce qu'il faut s'inscrire?
Et il faut s'inscrire. Alors, j'ai un numéro de téléphone qui est le 06 14 29 17 22. 06 14 29 17 22.
On le rappellera en fin d'émission pour ceux qui n'auront pas eu le temps de prendre le crayon et le papier. Jean-Jacques, tu avais une petite chronique UFC à nous proposer?
Comme d'hab, une chronique le plus pratique possible.
T'es chargé là?
Pas mal de gens.
T'es chargé, on peut y aller?
Pratique. La batterie, point faible des appareils électroniques. La batterie est le point faible de la plupart des appareils électroniques, selon les études de fiabilité des produits domestiques réalisées par Que Choisir. Quelques précautions permettent de prolonger sa longévité. Les pannes d'ordinateurs, tablettes, téléphones ou aspirateurs sont, dans 20% des cas, causées par la défaillance de leur batterie. Malheureusement, ce sera trop souvent l'appareil lui-même qui sera remplacé, alors que ses autres composants sont encore fonctionnels. Le recyclage étant problématique, le mieux est de préserver les batteries rechargeables avec quelques précautions d'usage. Recharger dès 20% et pas plus de 80%. Les récentes études de laboratoire ont montré que le rechargement dégrade davantage les cellules en dessous de 20%, mais aussi au-dessus de 80%. L'idéal est donc de déclencher uniquement entre ces deux bornes. Le cycle complet de 0 à 100% n'est plus nécessaire, c'est même une erreur. Le nombre de recharges n'est pas non plus un problème, car les batteries actuelles ne mémorisent plus leur état de charge. Gare aux températures extrêmes. Alors moi, c'est vrai que je me dis, si je mets mon appareil à la chaleur, ça va recharger quasiment, ça va. Alors pas du tout. Gare aux températures extrêmes. La forte chaleur ou le froid extrême dégrade sévèrement les composants de la batterie. C'est la deuxième précaution élémentaire à respecter. Pas de recharge prolongée. Alors ça, il ne faut pas laisser une recharge se prolonger toute la nuit. Le maintien de la tension après pleine charge, même si le chargeur se désactive, accentue l'usure de la batterie. Voilà.
Ok. Et alors pour le coup, c'est valable pour tous les types de batteries ou c'est réservé aux batteries avec lithium?
Voilà. Moi, je pense que c'est vrai, moi, il y a des années que je sais qu'il ne faut pas que je recharge complètement. Il ne faut pas que je laisse toute la nuit. Mais par fainéantise, je branche et puis boum, demain matin, ça sera chargé à 100%. Et il ne faut pas. Donc, je veux dire que, et c'est vrai que.
Faut que tu mettes ton réveil à 2h du matin pour débrancher.
Mais est-ce que ça marche pour l'être humain? Parce qu'on dit recharger les batteries entre 20% et 80%, c'est.
Non,
ça ne marche pas.
Et si là, tu vois, là, c'est plus l'affaire de que choisir. Là. C'est
ouais. Alors, on a un problème, c'est que Josiane, elle est toujours à 150%. Mais dans le micro, Josiane, dans le micro.
Non, je dois être plus qu'à 120 maintenant. 120.
Bon, déjà, t'es en dessous de 130 sur l'autoroute, ça passe.
Excuse-moi, en dehors des voitures, qu'est-ce qu'il y a comme instruments qui ont des batteries? Parce que moi.
Non, mais on parle des batteries. Mais...
Tout ce qui est électronique, appareil. On va dire
Jean-Jacques vient d'avoir un geste très radiophonique. Il a montré son portable. C'est toi que tous les auditeurs l'ont vu du coup.
Mais tu sais pas qu'on est filmé. Donc grande radio.
C'est effectivement c'est le téléphone, c'est la tablette, c'est l'ordinateur portable. C'est les équipements, on va dire. Question pour les piles rechargeables, par exemple, où on n'a pas de visibilité sur l'état de charge. Moi, c'est toujours un problème. On ne sait jamais quand est-ce que la pile est bonne ou mauvaise.
Il faut acheter un tout petit appareil avec la possibilité de pouvoir.
Tu as un niveau de charge. Tu as des appareils comme ça.
C'est très pratique. Ça coûte trois fois rien.
J'en ai un, mais il me dit que si c'est mauvais, moyen ou bon.
Ah non, moi le mien, je l'ai acheté vraiment de Francis sous et il me montre l'état de ma batterie.
Donc Jacqueline n'est pas passée à l'euro, hein, vous noterez, hein, de Francis sous.
Mais Jacqueline, je sais qu'à une époque, on vendait des piles qui n'étaient pas rechargeables, hein, et qui avaient, on les touchait de chaque côté voilà. et il y avait
un état de charge, oui.
Il y avait l'état de charge, mais c'était des, je sais pas pourquoi, enfin, il fallait garder ce carton, quoi, parce que ça servait. Ça se vend plus, ça, je crois pas, c'est
non.
Bon, dans tous les cas, on prolonge la vie de nos appareils si on recharge correctement, et c'est ça qu'il faut entendre.
Voilà, donc entre 20, voilà, il faut pas descendre en dessous de 20%, et il faut pas monter au-dessus de 80%. Moi, je suis content quand j'ai 100%, et j'ai tort.
C'était ta contribution écologique du jour, donc chargeons correctement nos appareils. On va se faire une nouvelle petite pause musicale avec une nouvelle chanson de Stone et Chardin qui s'appelle La suite de ma vie, qui je crois a été écrite à l'occasion de la naissance de leur enfant. On les écoute et vous me dites ce que vous en pensez, si vous la connaissez, et puis vous me dites comment vous l'avez vécu dans les années. À tout de suite.
Dominicaine s'en va les pieds nus, embrasser le bon Jésus.
Et le peintre fou sur sa toile d'été apprivoise un soleil sur les blés.
Chacun voit le monde à chacun sa façon. Pour vivre il y a mille raisons.
Show.
suis la route des caravelles.
Là-bas sur le ring, un boxe plein d'espoir. Au bout de ses poings, tient la victoire.
Chacun voit le monde à chacun sa façon. Pour vivre, il y a mille raisons.
Donc c'était la suite de ma vie avec Stone et Chardin. Alors une chanson qui rappelle pas beaucoup de souvenirs visiblement. Hein. Vous avez pas acheté l'album les uns et les autres. Hein. Donc une chanson qui rejoint un petit peu la phrase du jour. Hein. Le but est dans le chemin.
Mais la phrase.
La suite de ma vie.
Puissante, cette phrase-là,
mais oui, bon.
Elle s'adresse à tous.
À tous.
Bon. Est-ce que les uns et les autres vous avez des questions à poser à Myriam sur Aidons-nous?
Non, pas forcément, parce que je pense qu'elle a parfaitement exposé les choses qui vont se mettre en place. Donc, moi, je trouve que c'est une super bonne idée.
Alors,
moi, j'ai une question.
Vas-y.
Ce serait l'historique de ce collectif. Comment vous êtes rencontrés? Comment ça a démarré?
Avec le hackathon culturel.
C'est le hackathon qui a été le big bang de l'association. Oui.
Et on s'est retrouvés à 6 avec l'envie de travailler sur la question et d'en aider et l'accessibilité de la culture, en fait, et de l'artistique et de la créativité. Donc, c'est ça qui a été le vecteur commun.
Et vous étiez donc dans la même équipe ou une équipe qui vous a été imposée ou vous êtes rapproché par affinité?
Alors, en fait, au départ, dans un hackathon, il y a un certain nombre de projets qui sont proposés au départ. Et chaque équipe se constitue en fonction des votes qu'il y a sur les projets qui ont été présentés. Et donc, là, sur Aidons-nous, il y avait deux projets santé qui avaient été exposés. Donc, on a rassemblé deux projets santé et ça a fait Aidons-nous. Voilà.
Bon, ça n'a pas fait pchit, ça fait waouh.
Ouais.
Bon, c'est pas mal, bravo. Pour le coup, il y a une belle expérience à vivre, à venir.
Ah, ça, c'est sûr.
Et alors, pour le coup, comment s'articulent les spécialités de chacune d'entre vous? Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous travaillez en relais? Comment vous allez organiser les choses?
Sur les premiers ateliers, on travaille ensemble justement pour un peu voir le périmètre de chacune et ce que chacune peut apporter. Et ensuite, on va se spécialiser et aussi géographiquement, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont à Nantes, d'autres en Vendée, d'autres à Cholet. Moi, je suis en Maine-et-Loire, enfin à Angers. Donc, ça fait pas mal de secteurs différents.
Sachant que vous avez déjà chacun une activité.
Oui, on a chacun une activité.
Donc là, ça va se greffer comment cette nouvelle activité, ça peut...
Ça se rajoute au reste.
Ça se rajoute. Et si vraiment ça marchait fort, vous pourriez...
Oui, on sera en capacité de se mobiliser. En fait, on ira aussi en fonction de ce qu'on peut faire. Hein.
Oui. Faut pas... Il y aura un ajustement.
Ouais. Mais il y a l'envie forte de pouvoir... être sur ces publics-là et de pouvoir avoir suscité en fait l'échange, la rencontre, le partage et fortifier aussi les relations.
Alors pour le coup, effectivement, mais ça c'est l'effet bénéfique attendu, mais ne serait-ce que de mettre les gens en action, je trouve que des fois on débloque des situations très simplement. Juste les mettre en mouvement, leur laisser penser que c'est pas interdit, que c'est possible, que c'est réalisable, eh bien, on obtient des résultats surprenants. Enfin, nous, on le voit à l'association France Alzheimer assez fréquemment. Hein. Les gens croient que, bah non, sous prétexte qu'on est malade, c'est pas possible. Si, il y a plein de choses qui restent possibles. Il y a juste beaucoup de choses qu'on s'interdit trop, quoi.
C'est sûr que là, enfin, il s'agit de créer des espaces de parole, des espaces de mobilisation, alors par physique aussi, par la créativité, et puis aussi d'aider à la renarcissisation. En fait, on appelle ça comme ça un peu
dans le jargon,
parce que c'est vrai que quand on est aidant ou aidé, on voit bien que il y a des situations de quasi burn-out. Oui. Alors, ce que j'allais dire le plus difficile dans le projet, c'est que les aidants se reconnaissent bien comme aidants, parce qu'on sait bien que les aidants, beaucoup le sont sans le savoir. Quoi.
Et au bout d'un long chemin, quand même, là aussi. Le but est dans le chemin, c'est un chemin qu'on préférerait éviter, mais trop souvent, les aidants s'aperçoivent qu'ils sont aidants tardivement. Et s'il y a des aides qui sont, on va dire, naturelles, il y en a qui le sont peut-être un peu moins avec le temps.
Et oui, qu'est-ce qui fait qu'ils se reconnaissent tardivement? C'est parce qu'ils sont pris dans
On voit pas les choses.
Parce qu'on est pris dans un engrenage, déjà, oui, effectivement, comme dit Josiane. Ne pas mettre un nom sur cette maladie qui fait extrêmement peur, se dire que bon, c'est des petits accidents dus à la vieillesse, l'oubli, la désorientation, mais c'est très très difficile de poser le nom d'Alzheimer sur la maladie, et tant que la médecine ne l'a pas posé, on essaie d'éviter à tout prix de se dire qu'on va être confronté à ce problème.
Là, c'était se reconnaître malade, mais si j'avais bien compris ta question, c'est pour l'aidant, qu'est-ce qui fait qu'on se reconnaît tardivement aidant? Ah oui. Bah, c'est ce qu'on raconte souvent avec les familles, c'est surtout que beaucoup prennent ça pour une obligation, enfin, je dirais pas une obligation, mais un devoir. C'est de la famille, je m'en occupe. Donc, comme voilà, c'est normal. Je ne suis pas dans un rôle d'aidant, en fait, parce que c'est mon rôle de famille, en fait. Donc voilà.
Bah, bien sûr, entre époux et épouse, automatiquement ton rôle, bah, il est d'aider celui qui a des difficultés. Donc
Et le fait de passer dans ce cap d'aidant, ça transforme quoi finalement d'intéressant?
Alors c'est un très long chemin, parce que il y a le pas déjà de, je pense que quand le diagnostic est posé, comme tu disais tout à l'heure, et que autour de on va dire le monde médical commence à définir les rôles, c'est surtout le monde médical et paramédical qui définissent les rôles souvent, que ils commencent à prendre conscience de ça, qu'on leur donne les droits et les devoirs, mais ça reste pendant longtemps une relation ambivalente. Parce que justement, avec ce lien familial, ils peinent à demander de l'aide, parce qu'ils se disent, bah, si je demande de l'aide, c'est que j'ai échoué, c'est que je suis défaillant. Donc c'est une relation assez ambivalente. Donc à la fois, il y en a plein qui reconnaissent l'épuisement, qu'ils ont besoin d'aide, mais à la fois, voilà. Et même quand il y a certaines choses, par exemple au niveau de l'accueil de jour qu'on évite, par exemple, c'est quand on raconte une journée, comment ça s'est passé. Dit ah ben il était génial votre proche, il a fait ci, il a fait ça, il a fait, parce que évidemment les animateurs sont contents de relater comment ça s'est passé avec le fou rire qui va
dans le micro. Josiane,
mais non, mais c'est que il faut surtout faire attention, parce qu'on relate des choses peut-être que la personne n'est plus capable à domicile, et du coup l'aidant se dit bah pourquoi il arrive pas avec moi. Donc il y a tout un travail à faire et à expliquer à l'aidant. Ben non, c'est le contexte qui fait que l'effet groupe, ou l'effet professionnel, ou l'effet ci, l'effet ça. Mais c'est vraiment une relation très ambivalente. Je veux de l'aide, je demande de l'aide, mais quand on me la donne, je la vis pas forcément bien.
D'autant plus que pour l'aidant, il y a une forte culpabilité à reconnaître que on a besoin d'aide.
C'est de ça que je parle, de cette culpabilité dont je parle, le fait de se dire, c'est souvent ça, d'accepter que ce n'est pas la défaillance qui amène l'aide extérieure. Et c'est ce qu'on fait entendre souvent aux aidants, c'est que ça rejoint peut-être aussi ta phrase, mais qui va loin ménage sa monture. C'est que plus vous ménagez, plus vous avez le temps et la santé de vous occuper du proche. Malheureusement, et ça c'est pas pour alarmer, les stats sont quand même aujourd'hui 60% des aidants, toutes maladies confondues, hein, décèdent avant le proche malade.
C'est impressionnant quand même.
C'est voilà.
Et 40%.
40% pour la maladie d'Alzheimer et 60% en général. Enfin, il y a un, ou j'inverse peut-être les stats. Ouais. Il y a 40 et 60. Ouais. Et oui, c'est quand même ça qui a, qui a été moteur de beaucoup de politiques d'aide aux aidants aujourd'hui, parce que c'est devenu vraiment une urgence. Et ça, ça va aussi avec l'accord de l'aidant, de reconnaître que c'est pas une défaillance, justement, c'est pour, et le, qu'on le veuille ou pas, et là, on rentre peut-être plus dans le domaine psychologique. Le proche le, aussi le ressent, hein, cet épuisement.
Alors, justement, de... j'ai envie de dire, à l'opposé de la relation d'aide, il y a aussi la notion de dépendance ou de perte d'autonomie que la personne vit et qu'elle n'a pas envie de d'avouer ou de partager avec avec son proche. Autant quand on est enfant, apprendre à faire ses lacets, c'est très bien parce qu'on va s'autonomiser. Quand on a besoin d'aide à 60, 70, 80 ans pour des gestes de la vie quotidienne, on n'a pas envie d'avouer cette faiblesse-là.
Donc, l'isolement.
Ça transforme la relation.
Il y a l'isolement aussi de l'aidant, hein, qui coupe un peu tout son entourage, il se referme sur lui-même. Ouais. Voilà, il a plus de vie sociale.
Il a plus de vie sociale. Ouais.
C'est vrai que c'est partant un peu de tous ces constats-là, en fait, ayant dans le collectif des personnes qui sont aidants, qu'on a eu envie de proposer des ateliers où justement chacun a son temps à lui. Il y a l'aidant, l'aider, des ateliers différenciés et on vit des expériences chacun séparées pour mieux se retrouver après. Alors après, ben effectivement, la difficulté, c'est qu'il faut être dans cette posture, d'être en capacité d'aller demander du temps pour soi déjà, et après de l'investir sur de la créativité.
Bon, ça rejoint un petit peu nos expériences aux associations, la Croix-Rouge ou France Alzheimer 49.
D'où juste un commentaire, d'où l'importance en termes de communication globale, de positionner ce rôle d'aidant et à la limite. Dans ce que je comprends, c'est dès le départ, en fait, la personne qui accompagne une personne qui est malade pourrait avoir ce raisonnement de dire, ben voilà, je vais l'accompagner, mais j'aurai besoin d'aide dès le départ.
L'accepter.
L'accepter. Mmh. Voilà, ce cheminement que tu décrivais, ce soit fait. Mais il faut le vivre quand même. Tu penses qu'il faut le vivre pour.
Et puis c'est pas forcément facile de connaître toutes les institutions qui peuvent vous venir en aide.
Voilà.
Hein. Faut déjà franchir le pas quand on les connaît, mais il y a aussi le fait que une grande majorité de la population ne sait pas qu'il y a des structures d'aide pour venir prendre le relais de l'aidant.
C'est ce qu'on disait. En fait, il y a beaucoup d'aide qui existe, mais l'information ne parvient pas forcément, et ça revient souvent à la structure qui accueille pour la première fois qu'il découvre, justement, de faire le relais, en fait, parce que vraiment, il y a beaucoup d'aide, et il y a l'acceptation de l'aidant, la connaissance des enjeux et de ce qui existe comme aide et l'acceptation de ces aides, parce que ça aussi c'est encore on parlait de voilà. Nécessité sur la culpabilité.
Et avoir le courage de franchir la porte où je pense à l'association, il y a beaucoup d'aidants qui entendent parler, mais le fait de franchir la porte là, c'est poser un acte, voilà.
Ça entre dans l'acceptation de l'aide et aussi, et même quand on rentre, par exemple, il rentre, on va dire, à la Croix-Rouge, souvent, il jure fidélité à une association et il pense obtenir toute réponse à tout. Je parle du couple aidant-aidé. Hein. Et c'est là où les professionnels, ou les associations, ou les bénévoles qui les accueillent ont un rôle crucial, c'est-à-dire, il faut savoir accompagner. Dire juste, ah, va au clic, tu auras tous les renseignements. N'oublions pas que la routine et le quotidien fait que ce sont les aidants et le couple aidé-aidé n'ont pas l'aide d'isolement social. Il y a une surcharge administrative au niveau du parcours de santé. Enfin, il y a plein de choses. Et on se dit, bon, demain j'irai. Et il faut savoir justement accompagner. Même si c'est pas physiquement, mais dire, je viens d'appeler telle personne, tel endroit, tel œil vous recevra, remettre un coup de fil. Pour avoir le suivi, c'est vrai que les professionnels n'ont pas souvent le temps de le faire, mais c'est important. Faudra vraiment accompagner. Mmh.
Bon, on a dit plein de choses, hein. Effectivement, cette relation d'aide par la maladie ou le handicap, ça nous prend en tripes, hein, parce qu'on le vit de près, tout ce qu'on en est. Je vous propose le dernier morceau musical de cette émission. Il va plaire à Jacqueline, j'espère, celui-là. Il s'agit de Merci par Juliette Gréco.
J'adore.
À tout de suite.
Merci. Voilà poésie. Le vent, la vie. Merci pour le bois, le sel, le poivre. Merci. Merci bien, quand même. Le sang. La reine. Merci pour toute la joie. Les planches. La scène. Merci. Merci, les jours de colère, l'avenue entière. Merci pour les soirs d'hiver, chaleur, lumière. Merci pour les kilomètres. Route, renaître. Merci aux chambres d'hôtel, leur lit, leur ciel. Merci pour tous les merci sur terre, la nuit. Merci pour tous ces tonnerres. Les émotions, une larme, c'est bon. Merci, l'aventure, l'air, le temps, la mer. Merci pour la poésie.
C'était donc Juliette Gréco avec Merci. On a commencé l'émission un peu vitaminée là, et puis ça finit en douceur. Ça te va mieux, Jacqueline, je crois.
Oui, ça me va beaucoup mieux.
Bon, dans tous les cas, on va dire merci à Myriam qui va nous rappeler le numéro de téléphone pour les inscriptions. Alors prenez bien un petit papier, un crayon, c'est le
06 14 29 17 22.
Oh là, pas si vite, on va le redire doucement.
Je redis. 06 14 29 17 22.
Bon, j'espère que les auditeurs ont eu le temps de noter. Dans tous les cas, ils peuvent se renseigner auprès de la ville des Ponts-de-Cé. L'information est relayée.
Oui, bon. Voilà.
Donc, rendez-vous sur le site de la ville.
Les séances sont gratuites totalement?
Oui,
ou
alors
c'est une petite participation financière?
On fera passer le chapeau. Au départ, on n'avait qu'à aller un tarif et puis on se dit, mais non, en fait, on expérimente, on est dans le chemin. Et
exactement. Alors, pour le coup, on est encore une fois dans le chemin et il faut effectivement trouver la bonne cadence, la bonne direction et savoir où on va à la fin.
Hein. Exactement.
Jacqueline, est-ce que tu avais une petite recommandation culturelle à nous faire en fin d'émission?
Oui, le salon de la maquette et du modélisme qui sera le 7 et 8 octobre 2023 à la salle Simone Mathieu à Montreuil-Juigné. L'entrée est à 3 euros.
D'accord. Bon, donc pour les petits passionnés,
voilà.
Ou les vieux, les grands, les petits, les
tout
voilà.
Âge.
Voilà.
Et alors moi, de 7 à 107 ans.
C'est ça. Intergénérationnel, cet univers des maquettes. Hein.
Attends.
Hein. Est-ce que les uns et les autres, vous aviez d'autres recommandations à faire?
Non, moi je voudrais rebondir sur le mot merci parce que en tant que animateur de France Bénévolat, je trouve que dire merci à ces bénévoles, c'est extrêmement important. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Mmh. Parce que, voilà, ils donnent, c'est sûr, mais ils aiment bien recevoir, entre autres, un merci. Voilà.
Ça fait partie des choses, c'est le contre-don minimal pour moi. Hein. La reconnaissance, voilà, on n'a rien sans rien, et quand on n'a aucun retour, effectivement, on perd sa motivation. Moi, je voudrais juste rappeler, on en a parlé avec Myriam tout à l'heure, le 6 octobre, effectivement, au Théâtre des Dames de la ville des Ponts-de-Cé, il y a donc une pièce de théâtre, un one-woman show, où la comédienne relate son expérience d'aidante auprès de sa maman, si j'ai pas de bêtises. Et pour le coup, si vous avez des problèmes de mobilité, je sais que la ville des Ponts-de-Cé a mis en place un dispositif pour que on paye une place, mais on peut venir à deux, pour peu que l'on vienne et que l'on covoiture. Donc, à se renseigner auprès de la ville des Ponts-de-Cé aussi.
Et je rajoute, c'est à 20h.
C'est à 20h. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ricardo, t'as pas de salon à nous recommander?
Non, je voulais parler aux États du salon de l'érotisme dont tu me parlais tout à l'heure. Non, c'est une blague. Si sa femme nous écoute.
J'ai pas pris la feuille, mais il y a une exposition qui se tient sur la photo et la peinture à Angers, mais qui dure jusqu'au mois de mars, quelque chose comme ça.
Bah écoutez, ça a été un plaisir de faire cette nouvelle émission avec vous. On se retrouve dans une quinzaine de jours, et puis on va souhaiter aux auditeurs une bonne semaine.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
Chers auditeurs et auditrices.
Et merci à chacun d'entre vous.
Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait chez les ailes, à bicyclette.
C'est tout.